êtes sur la bonne voie.
Et c'est précisément ce dont on va parler ce soir, puisque notre invitée d'aujourd'hui s'illustre dans une activité où la voix est reine, le doublage. Elle le pratique avec brio des deux côtés de la barre, puisqu'elle est à la fois comédienne et directrice de plateau. Barbara Tissier, bonsoir.
Bonsoir, quelle introduction.
Alors Barbara, peut-être que nos auditeurs commencent déjà à reconnaître ta voix. Tu es, comme je disais, une voix incontournable et très connue du doublage français de ces deux ou trois dernières décennies. Donc je pense que ça évoquera des souvenirs pour tous nos auditeurs. Je ne vais pas réciter l'intégralité de ta carrière, mais pour citer quelques-uns de tes rôles emblématiques... Tu as doublé donc Jenny Garth dans Beverly Hills, Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux, Raven Simonet dans Phénomène Raven, la cowgirl Jessie dans l'incroyable saga Toy Story, et aussi et surtout Cameron Diaz, qui est aujourd'hui à la retraite, mais que tu as doublé pendant longtemps.
On n'a pas idée d'être à la retraite à 40 ans, un peu plus.
Moi, ça m'a crevé le cœur quand elle a dit qu'elle prenait sa retraite.
J'ai dit, mais elle veut que je sois au chômage ou quoi?
Et donc, par ricochet, c'est aussi toi qui as doublé la princesse Fiona dans la saga Shrek. Peut-être, je dois le dire, à titre tout personnel, ceux de tes doublages que je préfère, parce que j'imagine que c'était très drôle à doubler, surtout quand on a un partenaire de jeu qui s'appelle Alain Chabat. Et en tout cas, c'est très sympa à écouter. Donc, comme je disais, tu es également directrice artistique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Donc pareil, je ne vais pas tout citer, mais on peut notamment citer parmi tes directions artistiques la trilogie du Hobbit, donc la deuxième trilogie de Seigneur des Anneaux, les Animaux Fantastiques 2, les deux Wonder Woman avec Gal Gadot, et beaucoup de choses pour Disney et Pixar. Donc parmi d'autres, Réponse, Vaiana, les Indestructibles 2, et le dernier Toy Story, c'est toi aussi, entre autres, entre beaucoup d'autres, puisque, comme je disais, tu as une très riche carrière. Alors, commençons peut-être par le commencement. Tu as commencé ta carrière au cinéma sous la direction d'un jeune réalisateur prometteur qui s'appelle Jean-Luc Godard. Comment ça s'est fait, ces premiers pas?
C'est une histoire assez jolie. Tout ça est parti du fait que j'habitais Garges-lès-Gonesse avec mes parents. Ma maman est psychologue scolaire, mon père était professeur. Et je faisais de la danse au conservatoire de Garges-lès-Gonesse. Et la prof de danse est allée voir mes parents et elle a dit « Oh, vous savez, votre fille, je ne sais pas si elle sera danseuse, mais elle a un truc. Vous devriez l'emmener à la salle Pleyel faire de la danse parce que ça pourra lui offrir quelque chose que moi, ici, je ne pourrais pas lui offrir. » Mes parents se sont saignés à blanc pour m'offrir les cours de danse à la salle Pleyel, et le cours de danse à la salle Pleyel sont publics. Et un jour, il y a Alain Tasma, qui était donc l'assistant réalisateur de Jean-Luc Godard sur ce film qui était en préparation, Passion, qui est venu, qui a assisté au cours, qui avait posté une annonce de casting. Il a demandé à mes parents si ça m'intéresserait de passer le casting. J'ai passé le casting et j'ai vécu cette expérience de dingue film dans lequel j'apparais 5 minutes à l'écran, mais pour lequel je suis partie tourner 3 mois en Suisse avec une équipe de folie, puisqu'il y avait Michel Piccoli, Isabelle Huppert, Anna Chigula, Jean-François Stévenin, dont je faisais la fille. Et j'ai vécu une aventure où du haut de mes 10-11 ans, c'était un rêve de gosse. J'avais des paillettes plein les yeux. Donc voilà comment ça s'est fait. Et c'est de cette aventure-là que tout a découlé. Puisque suite à cette expérience, j'ai été inscrite dans ce qu'on appelait l'annuaire du cinéma à l'époque, et qu'on m'a appelée pour faire d'autres choses, et notamment pour faire du doublage. Donc, voilà.
Et alors, pour avoir lu un petit peu ce que des interviews, des acteurs, des comédiens de doublage, comment ils débutent, parfois ce qui se passe, c'est qu'ils se post-synchronisent eux-mêmes, c'est-à-dire ils synchronisent des répliques qui ne sont pas très audibles sur le plateau.
Oui, des problèmes de son, un avion qui est passé.
Par exemple, ils se post-synchronisent et donc après, finalement, une fois qu'ils ont acquis la technique, ils doublent des comédiens étrangers parfois pour se spécialiser là-dedans. Toi, c'est comme ça que ça s'était fait?
Non, pas du tout. Je ne me suis pas post-synchronisée dans ce film-là. Je pense que c'est... je suis sûre même. C'est Jenny Gérard qui a trouvé mes coordonnées. Et des enfants comédiens à l'époque, il y en avait quand même très très peu, qui m'a contactée. Et j'ai passé les essais pour faire la petite fille dans E.T.
C'était Drew Barrymore.
C'était Drew Barrymore.
D'accord, ok. Bon,
j'ai été choisie, mais je n'ai pas fait le film parce que j'avais déjà un spectacle et que je dansais à l'époque au Casino de Paris. D'accord. Et que mes parents m'ont dit « Ah, ça va faire trop ». Donc, je n'ai pas fait ce film-là, mais elle m'a rappelé pour faire « Les oiseaux se cachent pour mourir ». C'était une saga
avec
pour la télé.
Richard Berlin.
Bravo.
Exactement. Doublé
et là,
par Richard Darbois.
Exactement.
Grand nom du doublage également.
Et c'est là et j'ai rencontré Richard Darbois. Lors de mon premier doublage, j'étais avec Richard Darbois à la barre. C'était un truc de dingue.
Ça, c'est pas mal, effectivement. Voilà. Bah, pour ceux qui... Donc, pareil, comme, un petit peu comme toi, Barbara, Richard Darbois, je pense que tout le monde connaît sans le connaître, puisque déjà, c'est lui qui fait la voix de Energy avec Donna Renew. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'Energy était tellement motivé pour le garder comme voix d'antenne et qu'il a déménagé il y a quelques années, je sais plus si en Guadeloupe ou en Martinique, et qu'il a un studio là-bas.
Ouais. Il est revenu. Il est revenu maintenant.
Ah, d'accord.
Il est revenu parce que son fils a fini ses études, il est
d'accord.
revenu en France.
Mais
etc.
c'était c'est une histoire qui est assez connue parce que c'est vrai que Energy était tellement et à l'époque il était tellement motivé et à l'époque il revenait. C'est aussi pour ça qu'on l'a moins entendu puisque il faisait, il me semble, que Richard Gere
Harrison Ford. Mais il revenait pour ses
Voilà. Et là, par exemple, dans le dernier S.O.S. Fantôme, il reprend Dan Aykroyd qu'il avait
laissé. Oui, tout à fait.
Et alors, donc pareil, tu citais le nom de Jenny Gérard. Elle a fait beaucoup les Spielberg pendant un temps.
Bien
elle
sûr.
Est décédée aujourd'hui. Les Zemeckis, beaucoup, elle a fait aussi. Tous les Harry Potter, c'est elle. Donc, tu lui as succédé là-dessus. Et je rebondis sur quelque chose que tu disais qui est assez intéressant. Le statut des enfants acteurs de façon plus général ou dans le doublage, c'est assez particulier parce que par rapport au nombre d'heures qu'ils peuvent passer en studio ou
c'est
avec...
très très réglementé et c'est très bien comme ça. En France, on a une législation qui protège le travail des enfants et pour faire travailler des enfants, il faut passer par la DAS. Donc il y a des commissions qui se réunissent et qui décident que si un enfant a déjà fait ce tournage-là, il pourra pas faire ce doublage-là parce que on est obligé de les faire travailler soit le mercredi, soit le samedi, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas d'école.
Ouais,
et un nombre limité de temps. On n'a pas le droit de les faire travailler plus de 4 heures de suite, etc. etc.
D'accord.
Et c'est très bien comme ça parce que ça évite les abus et ça évite que les enfants...
ou même soient trop rapidement déscolarisés ou sortent
exactement,
du circuit.
Et, exactement. Et puis ça évite que certains parents exploitent leurs enfants aussi parce qu'il y en a.
C'est un petit peu le syndrome Jordi aussi qui existe dans
le
doublage.
Sûr,
c'est que ça
donc,
peut représenter une manne financière.
C'est pour ça que c'est très important que ce soit réglementé et je trouve ça très bien. Oui. Maintenant, il est vrai que on a besoin d'enfants parce que c'est pas facile de trouver des enfants qui ont du talent, qui ont envie de le faire et qui sont motivés parce qu'en fait on peut faire beaucoup de choses avec des enfants parce que ils ont une spontanéité et une vérité naturelle, mais il faut qu'ils aient envie.
Ouais.
Voilà.
Et c'est pour ça, oui, c'est pour ça que parfois c'est compliqué d'en trouver. Donc tu parlais du doublage ID. En l'occurrence, tu l'avais pas fait, mais il me semble qu'un de tes premiers rôles récurrents, c'était dans la série avec Punky Brewster, ça s'appelait,
oui,
avec Salem and Fry. Ça, c'est un des premiers grands rôles que tu as eu sur le long terme.
Je ne sais pas si c'est Punky Brewster ou si c'est Princesse Sarah, mais ça devait se correspondre à peu près à la même période. Princesse Sarah, c'était une série d'animation manga. Mm. C'était une des toutes premières qui se faisait.
C'était à l'époque du Club Dorothée, du coup.
Je ne sais pas si ça passait sur Club Dorothée. Je pense que c'est plutôt sur la 5.
D'accord.
À l'époque,
c'était
la 5.
C'était au lancement
C'était
au lancement de la 5.
Je pense que c'est plutôt au lancement de la 5. Il y a eu ça, il y a eu Claire et Tipoune, il y a eu Cathy la petite fermière. En tout cas, ça correspondait. C'est des époques qui ont correspondu. Et c'était génial pour moi parce que c'était des périodes où j'étais très, très bien accueillie dans ce métier par tous les aînés qui, malheureusement, ont tous un peu disparu à l'heure actuelle,
beaucoup,
qui ont été des modèles, mais qui m'ont très bien accueillie, qui m'ont encouragée, qui m'ont aidé à prendre confiance en moi pour me donner la confiance nécessaire de croire que je pouvais faire ce métier.
D'accord.
Parce qu'on est enfant, on prend ça comme un loisir.
Ouais, t'as la magie du truc.
Exactement.
Et puis
mais au moment où germe l'idée d'en faire son métier, on doute quand même. Ouais. On se dit, mais est-ce que je vais être légitime ? Parce que se reposer sur un talent d'enfant, c'est quelque chose. Mmh. Mais après, en faire son métier et grandir et pouvoir s'assurer une longévité, c'est différent.
Ouais, c'est
et ils m'ont tous accompagnée avec beaucoup de bienveillance pour la plupart, en me disant, non, tu as du talent, maintenant, il va falloir te former, il va falloir aller en cours de théâtre. Puis j'avais mes parents derrière qui étaient très, très, très encadrés là-dessus et qui m'ont bien expliqué que il m'encouragerait aussi dès lors que je poursuivais mes études parallèlement, que ça ne suffirait pas d'avoir ce soi-disant petit talent dont on parlait, que quand on serait grand. Parce que quand on est sur le marché du travail enfant, il y a moins d'enfants, donc oui, c'est facile d'avoir du travail. Quand on se retrouve à l'âge de 16 ans, 18 ans, là, on est très nombreux à vouloir faire ce métier. Et donc, c'est plus difficile d'exister. Donc, mes parents avaient cette lucidité-là. Donc, cette période, pardon, pour en revenir à Pookie Brewster et Princesse Sarah.
C'est très intéressant, c'est le cheminement chronologique.
C'était génial parce que ben, moi, j'étais au contact de gens comme Roger Carrel, André Valmy, qui faisait mon papa dans Pookie Brewster, qui était un monsieur d'une telle gentillesse. Des gens comme Jacques Thébault, comme Roger Rudel,
c'est incroyable. Voilà, c'était effectivement incroyable. Eux-mêmes des grands acteurs de doublage, donc ils avaient beaucoup à t'apprendre, y compris sur le jeu, le plan technique.
Et puis, qui avaient beaucoup à m'apprendre au niveau du jeu, sur le plan technique, etc. Et puis qui étaient des modèles d'éthique aussi. Parce que c'est important aussi de savoir être fidèle, loyal, savoir quelles sont les règles de ce métier pour bien se comporter. Et ils m'ont appris tout ça. Donc je leur dois beaucoup et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis encore là, c'est que j'ai eu ces modèles-là qui ne sont pas des petits modèles.
Oui, oui, vraiment. C'est sûr. Ouais, c'est vrai, et ça laisse des traces. Et c'est vrai que aussi, toi, je pense que tu as gardé cette éthique-là et ce sérieux-là. Et c'est aussi pour ça que tu es installé, je pense qu'on peut le dire, dans le milieu du doublage, que ce soit en tant que comédienne et directrice artistique.
Attention, on remet toujours son trophée en jeu.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais film, moi, je le dis de l'extérieur, bien sûr. Non, mais c'est quand même, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs de doublage, c'est une discipline qui fait venir pas mal de monde, mais finalement d'avoir, comme tu disais, une longévité et de savoir se diversifier aussi.
Je pense qu'il faut toujours se remettre en question, en fait. C'est ça aussi que ça m'a appris, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis, et c'est pas parce qu'on vient de faire quelque chose de bien et qui a été apprécié ou quoi que celui d'après ça a apprécié de la même façon. Oui. Donc il faut y mettre toujours autant de cœur, il faut aimer ce métier. À partir du moment où on le prend avec désinvolture et en se disant ça va, je sais faire, c'est foutu.
Ouais, c'est à partir de ce moment-là. Ça vaut pour beaucoup de métiers, mais c'est vrai que d'autant plus des métiers artistiques et des métiers du jeu où je pense que si tu fais semblant, ça finit toujours par se voir, mais même évidemment. Y compris la voix, enfin c'est des choses qui
on peut pas tricher.
Voilà,
en fait non, c'est pas possible. Si on n'est pas sincère et si on met pas de cœur à l'ouvrage, on n'y arrive pas, et surtout ça ne parvient pas au spectateur. Et le but,
il n'y a pas l'émotion, puisque c'est ça qui compte. Exactement. C'est vrai que tu parlais de Princesse Sarah, de Pookie Brewster. Donc, c'est après des rôles comme ça où finalement, y compris parce que c'était diffusé à la télé, dans beaucoup de foyers, auprès de beaucoup de gens, y compris auprès des gens qui faisaient ce métier-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à de plus en plus t'appeler pour la télévision. Notamment, je parlais de Beverly Hills ou des.
Alors,
ou
Beverly
le cinéma.
Hills, j'ai pas fait les deux premières saisons.
D'accord. J'avais pas l'historique en fait.
Je crois que je crois que c'est les deux premières saisons qui ont été faites par Emmanuel Pailly, qui après, qui s'appelle maintenant Emmanuel Hamet, pardon.
L'épouse de Luc Hamet.
Exactement. Et qui ensuite a décidé de faire un break dans sa carrière et de faire autre chose.
D'accord.
Donc c'est à ce moment-là que j'ai repris le rôle. Oui, ça s'est fait. En fait, moi, j'ai pas réfléchi, en fait, parce que je mesurais pas ce qui se passait. Moi, je faisais parce que ça m'éclatait. Mais oui, petit à petit, on m'a appelé de plus en plus et ça a fait boule de neige.
Plus on t'entend, plus on te voit, plus tu.
Évidemment.
Es...
Ouais. Et puis après, ça circule dans ce métier. Oui, les gens se repassent les tuyaux.
Et c'est vrai que toi, tu avais eu, mais je pense que c'était une question d'opportunité et de chance aussi. C'était peut-être des rôles où tu avais pu. Enfin, une palette de rôles, on va dire, où tu avais pu exprimer ta grande.
Oui,
parce que par exemple, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais par exemple, Mémé dans les Looney Tunes, c'est toi aussi. C'est juste que c'est pas la voix avec laquelle tu vas chercher acheter du pain, mais c'est et le cartoon, c'est encore un exercice différent parce qu'il faut partir dans des extrêmes, il faut partir.
Mais tu as raison de dire que c'est des opportunités et des chances, parce qu'en fait là, c'est parce que d'un seul coup tu rencontres en l'occurrence une directrice artistique qui s'appelait Nathalie Rimbaud, puisqu'elle est malheureusement décédée aujourd'hui.
Grande directrice artistique aussi,
et qui a su déceler en moi, alors que en plateau et jeune fille et petite fille, j'étais quelqu'un de très réservé, de très petite fille modèle, vraiment, mais qui a su déceler que derrière un micro, je pouvais être complètement
folle. Le grain de folie,
d'accord. Exactement. Et elle a exploité ça chez moi. Et quand elle m'a appelée pour me dire, je vais te mettre sur des essais de Mémé dans les Looney Tunes ou sur la tante Sophie dans Anastasia, par exemple. Anastasia.
Ah oui.
Voilà. Je me suis dit, mais ça va pas, mais elle est folle. Et en fait.
Oui, même toi, tu voilà. peux.
mais oui, parce que moi je doutais. Et elle me disait, mais si, tu peux le faire.
C'est là la force des directeurs artistiques, mais surtout des grands. Et tu parles de Nathalie Rimbaud. Il y a beaucoup de noms qu'on dit dans l'émission, ça ne parle pas. Mais quand on explique ce qu'ils ont fait, c'est très parlant. Par exemple, Nathalie Rimbaud, l'excellente version française de Dr House, c'était elle qui était directrice artistique.
Bien sûr.
Et Féodor Atkin qui double Dr House, et notamment Jafar parmi beaucoup d'autres rôles. J'avais vu une interview de lui, il disait exactement la même chose, où il disait que c'est Nathalie Rimbaud qui était venue le chercher pour doubler Dr House, et que lui, ça lui était tombé dessus comme ça, et qu'il n'avait pas compris jusqu'au moment de passer les essais, et qu'elle avait fini par lui dire, de toute façon, t'étais le seul comédien que j'avais convoqué.
Mais c'est fou, et parce que effectivement, et je rejoins Féodor, moi quand j'ai vu le personnage sur Anastasie ou sur Mémé, j'ai dit mais qu'est-ce qui lui prend, ça va pas, et en fait voilà.
Ouais, c'est ça, c'est des rencontres comme ça, oui. Avec des personnages, avec des acteurs. Et pareil pour Cameron Diaz, le premier film où tu l'avais doublé, c'était Marie à tout prix,
c'était... dois à Jean-Pierre Dora.
Ah, on ne pouvait pas ne pas citer ça. À qui tu as également succédé, puisqu'il avait, parmi beaucoup d'autres films, notamment la deuxième trilogie Star Wars, c'était lui entre autres choses, les films X-Men, et Deadpool, il avait fait le premier, tu avais fait le deuxième.
Tout à fait, parce que Jean-Pierre a dû malheureusement arrêter le métier, il va très très bien, mais il est atteint de DMLA, ce qui fait qu'il ne voit plus.
Ouais.
Donc voilà pourquoi. Et Jean-Pierre est quelqu'un que j'ai rencontré étant enfant aussi, sur un film très sérieux, comment ça s'appelait, un film qui avait fait une très grosse polémique, La Dernière Tentation du Christ.
Ah oui, de Scorsese.
Exactement.
Avec Willem Dafoe qui jouait le...
Exactement. Qui avait fait tout un truc et qui avait été censuré même à un moment donné, et je faisais l'ange, et j'avais 11 ans, et c'est la première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre, et voilà. Et c'est pareil, personne à part Jean-Pierre n'aurait pu m'envisager sur un rôle aussi fou que celui de Cameron Diaz, parce que c'est les gens qui me connaissent peu ou qui me devinent peu ou qui se donnent pas la peine de se dire qui elle est derrière, voilà, hein, c'est vrai, ne peuvent pas envisager ça. Maintenant, je suis plus âgée et puis ma carrière fait que on a vu les choses.
Ouais.
Mais il faut se remettre dans une époque où c'était pas du tout le cas, et où ce que je donnais à voir de ma personne n'était pas ce que je pouvais être en tant que comédienne.
Ouais.
Voilà.
Et c'est lui qui a eu l'idée de te caster sur Cameron Diaz. C'est vrai que maintenant, quand on l'écoute dans ce film-là...
Il m'a même pas fait passer d'essai sur ce film-là. Il a pris un énorme risque.
C'était auprès de la maison de doublage, il a dit ce sera Barbara. Et il avait raison, parce qu'en plus, la VF...
Mais c'est un risque, prendre ce risque.
Et en plus, il y a quand même des... tous les acteurs se valent pas, tous les actrices se valent pas, tous les rôles non plus. Et c'est vrai que vocalement, et surtout en termes d'énergie et de
et de folie,
Cameron Diaz, il faut suivre. Enfin, c'est quand même il y a des trucs dans ce film-là ou dans d'autres rôles. Et en plus, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pareil, avec cette actrice, il y a le décalage qui est génial, parce qu'elle a un physique de top modèle, et dans Marie à tout prix ou dans d'autres films, elle fait des trucs kamikazes totalement.
Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a pas peur du ridicule.
En fait, c'est ça, ouais.
Ça lui fait absolument pas peur, elle y va à fond la caisse, et peu importe que son image ne soit pas lisse.
Et c'est ça, en fait, très rapidement, alors que pareil, dans Marie à tout prix, elle est jeune, je crois qu'elle avait juste fait... elle avait dû faire The Mask avant, mais elle était pas encore super connue, et elle a vraiment cassé son image, et c'était... Enfin, c'est super. Donc, par ricochet, on va dire, c'est... de doubler Cameron Diaz, ça t'a amené à doubler la princesse Fiona dans Shrek. Ça, c'est pareil, les films de Shrek. Peut-être que c'était... Est-ce que c'était Nathalie Rimbaud,
oui,
justement,
le premier, c'est Nathalie.
Et c'est pareil, je pense que c'est un des rares films que je peux voir autant de fois, et y compris autant de fois en VF, parce que la VF est exceptionnelle dans le choix des comédiens, dans l'adaptation française qui a été faite, c'est exceptionnel. Et du coup, comment ça s'était fait, le processus de sélection, et notamment avec le choix d'Alain Chabat pour Shrek.
Sur le choix d'Alain Chabat, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, je sais que j'ai passé les essais. Parce qu'en fait, même si en anglais c'est la voix de Cameron Diaz, quand c'est une animation, les clients accordent moins d'importance à la voix VO.
À la fidélité avec.
Exactement, puisque c'est vrai qu'on n'attend pas, on ne voit pas Cameron Diaz à l'image.
Oui.
Donc en fait, ils accordent moins d'importance à ça. J'ai passé les essais et je n'ai pas été tout de suite choisie. On m'a demandé de bien vouloir enregistrer le film en ne sachant pas si au bout du compte ce serait moi ou pas, parce qu'ils essayaient peut-être de trouver quelqu'un de plus connu.
D'accord.
Une vedette. Et moi, je me suis dit, je vais jouer le jeu, parce que de toute façon, le rôle, il a l'air super. Ouais. Et on verra bien.
Et on va bien se marrer quand même.
Exactement. Et bah, j'ai bien fait. parce que voilà. Comment Alain Chabat est arrivé dans l'histoire? Je ne sais pas trop. Mmh. Mais après, comme souvent, ce sont des réunions marketing qui décident avec le pool artistique et qui essayent de trouver...
En termes d'arguments marketing et de communication, c'est exactement. Toujours... Après, là, en l'occurrence, c'est vrai que parfois...
Il y a une vraie rencontre, en plus.
Oui, voilà. Là... C'est vrai que quand tu vois... alors que c'était l'esprit Shrek et l'esprit des nuls ou l'esprit Canal, c'est vrai que ça paraît, la rencontre paraît évidente, et c'est pour ça qu'il se glisse avec...
Exactement, c'était une super idée.
Et ouais, vocalement, ce qu'il fait, c'est super, et c'est vraiment... c'est une belle rencontre. Et Shrek, il y en a eu... Enfin, voilà, 4 films plus tard, et je crois que le 5e est en préparation, tu y es encore une belle rencontre également.
Le 4e mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
C'est vers la fin des années 90 que tu as commencé à diriger également ?
J'avais 25 ans, alors je suis née en 72.
Donc fin des années 90.
Bah là,
c'était sur
ça,
Felicity ou c'était...
Ma toute première direction, non, c'est pas les Felicity, il y a eu les Dawson d'abord.
Ah oui, Dawson, avec James Van Der Beek. Et,
exactement.
L'ex-femme de Tom Cruise, exactement. Katie Holmes. Voilà,
c'est... Mais c'est pas c'est ma première direction de série. Les premiers à m'avoir fait confiance en direction, c'est Disney, sur des téléfilms dont les aventures d'un petit toaster. Petit grille-pain courageux, voilà, c'est ça. Le petit grille-pain courageux,
c'était
une animation, exactement. Et ça s'est fait petit à petit. Puis effectivement, il y a eu les Felicity. Et le premier long-métrage, c'est Tarzan.
D'accord. Alors, Disney, en fait, il te mettait entre guillemets à l'essai sur des petits films et puis après
sur les séries.
Une fois
sur
que
les
ça fonctionnait
beaucoup,
bien,
quand ils ont vu que les Felicity marchaient bien, j'avais.
C'était une série Disney déjà.
C'était
donc,
une série Disney Felicity. Et puis il y avait une autre série qui s'appelait La Cour de récré avec des enfants, etc.
Ah oui, donc, oui, ça d'accord. C'était.
Voilà. Quand ils voient que ça se passe bien et qu'ils sont contents du résultat sur de la série, ben ma foi,
c'est voilà, pour ça que c'est comme ça que tu as commencé. D'ailleurs, on parle depuis le début du... Bon, alors, je pense que quand on parle de comédien de doublage, ça s'explique soi-même, mais peut-être que quand on parle de directeur artistique ou directeur de plateau, peut-être que tu saurais mieux expliquer que moi, je pourrais le faire. Ça consiste en quoi exactement ?
Pour moi, le rôle du directeur artistique, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va mélanger plusieurs instruments. Quand un chef d'orchestre va diriger une symphonie, il sait qu'il va avoir besoin de tant de violons, de mettre à ce moment-là les trompettes, etc. Le directeur artistique d'un film, il connaît le film de A à Z. C'est lui qui doit, avec l'accord du client, bien sûr, et les essais, etc., mais trouver les voix qui vont bien se mélanger, qui vont être homogènes. Mm-hmm. C'est-à-dire que les enfants, s'ils ont tous 12 ans, ben, faut qu'ils aient tous l'air d'avoir 12 ans, que le couple, il soit crédible, qu'il y ait des diversités vocales pour pas qu'on confonde les personnages.
Mm-hmm. S'il y a 3 personnages masculins, qu'ils aient pas tous la même voix.
Exactement,
ou des voix très proches.
Que les personnalités soient respectées. S'il y en a un qui est très élégant, il faut qu'il soit différent de celui qui est plus populaire. Donc ça, c'est la partie casting du directeur artistique. Et ensuite, il y a les enregistrements en eux-mêmes, où on doit guider l'acteur et le diriger de façon à lui expliquer quelle est l'émotion à ce moment-là, pourquoi, trouver la meilleure prise possible pour être toujours dans la sincérité, pour être dans l'ombre de la VO. Moi, je dis toujours qu'une bonne version française, c'est une version française qui ne se voit pas.
Oui, celle qu'on n'entend pas. Ou
c'est
tu
celle
te dis
qu'on
ne
doit pas remarquer.
Tiens, parce que la tournure de phrase ou la voix du comédien n'est pas...
Je pense qu'il ne faut pas chercher à réinventer le film. Le film, il a déjà été réalisé. Mmh. Il y a eu une volonté. Donc nous, tout ce qu'on doit faire, c'est être fidèle à ce qui a déjà été fait. Le plus discrètement possible pour se faire remarquer le moins possible. Il y a une étape aussi très importante qui arrive avant les enregistrements, qui est l'étape de la vérification du texte avec l'adaptateur.
D'accord. Le directeur artistique et l'adaptateur, c'est le même...
Oui, tout à fait.
Toi,
j'en
ai pas parlé parce que c'est plus mineur dans ta carrière, mais tu as fait un petit peu d'adaptation aussi.
Oui, on nous a proposé ça récemment. Je co-adapte avec Valérie Ciclet. On aime bien travailler
avec
à deux.
Avec qui tu travailles souvent.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est une étape très importante.
Il y a des directeurs qui... alors exige, je ne sais pas, mais qui demande parce que justement ils veulent être maîtres du texte et de dire au moment où on commence les enregistrements, le texte, je le connais sur le bout des doigts, je le récite.
Ah, de toute façon, le texte, on le connaît sur le bout des doigts au moment des enregistrements parce qu'on est censé l'avoir vérifié. Et c'est très important parce que le registre de langue n'est pas le même pour tous les personnages. Chaque personnage doit parler différemment. Donc l'étape de la vérification et le dialogue avec l'adaptateur, que ce soit quelqu'un d'autre ou soi-même, mais voilà, est très important. Vraiment, cette partie-là, au-delà de l'aspect synchrone du texte, parce qu'évidemment, il y a un texte qui doit être à peu près synchro à l'image.
Synchro labiale, tu veux dire,
voilà,
oui, d'accord.
Exactement. Ouais. Je pense que le sens est avant tout à privilégier et le registre de langue, par rapport au film qu'on doit défendre, on ne va pas écrire de la même façon raison et sentiment que Deadpool.
Bien sûr, oui, c'est ça. Voilà. Et justement, quand tu disais la bonne VF, celle qui se fait oublier, c'est celle où à aucun moment tu te dis, oula,
Exactement.
Où ça finit par te sortir du film.
Il faut que ça soit naturel.
Tu disais, quand tu parles de vérification, ça se fait à ce moment-là, c'est-à-dire que dans une pièce, on réunit le directeur artistique, l'adaptateur et le client.
Tout à fait.
Et voilà, et donc là, donc le client.
Et on discute toute la journée, on lit le texte et on discute.
Fait les corrections éventuelles.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Et donc après, sur la partie, pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, la partie où tu fais la sélection des voix finalement et le casting, toi, en tant que directrice artistique, un petit peu comme certains directeurs artistiques avaient été capables de te proposer ou de t'imposer sur des choix qui paraissaient pas évidents, c'est aussi à ce moment-là que toi, tu peux te dire, tiens, bah, par exemple, cet acteur-là, dans 3 ou 4 précédents films ou séries, il a déjà été doublé par d'autres comédiens, mais je verrais bien tel, et à un moment, de proposer des choses assez originales.
Se remettre toujours en question sur le casting, oui, essayer de trouver des choses non conventionnelles, oui. En revanche, s'il y a une voix qui est très installée, je me mets à la place du spectateur et ne pas avoir Patrick Poivet sur Bruce Willis, ça aurait été impossible.
Patrick Poivet,
voilà, franchement, je ne sais pas comment on va faire parce que
c'est très compliqué. Bah, là, parce que Bruce Willis, alors peut-être qu'il faudrait qu'il ralentisse un peu pour que ça soit, parce qu'il fait des mauvais films, mais c'est vrai que j'avais regardé un petit peu les 4 ou 5 films qu'il a fait depuis que Patrick Poivet est décédé. Bah, il y a 2 ou 3 comédiens différents qui ont été castés et où tu sens que vocalement c'est proche de Patrick Poivet, mais de toute façon il sera irremplaçable, c'est ça le problème.
C'est pas possible, la spécificité vocale de Patrick Poivet est telle que c'est compliqué.
C'était une rencontre comme on disait dans L'énergie, je pense qu'au bout de 40 films il le connaissait sur le bout des doigts,
mais de la même façon que je ne peux pas envisager Julia Roberts sans Céline Montsara. Il y a des vraies rencontres, donc là j'irai pas chercher l'originalité dans ce genre de cas, tu vois ce que je veux dire.
Mais sur certains acteurs débutants ou
au contraire, c'est ça qui est très 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 kiffant, c'est de voir un nouvel acteur arriver qui a un truc un peu différent ou quoi. Ok, si je me dis, alors je vais essayer de sortir des sentiers battus et de proposer quelque chose d'autre. En général, on a des essais sur ce genre de personnage, donc au départ, on propose 3 à 4 comédiens dans un premier temps, et j'essaye toujours de présenter ce que j'appelle 2 valeurs sûres, 2 personnes dont je sais qu'ils peuvent le faire et que ça va être bien, et puis d'avoir 2 idées un peu nouvelle, un peu originale, quitte à se tromper. Parfois, on se trompe, hein, bien sûr. Et puis, parfois, il y a un truc qu'on fait « Waouh, je suis vachement contente ». Voilà.
C'est sûr. Et d'ailleurs, toi, j'ai remarqué qu'il y a des... Parce que ça arrive forcément, vu que le directeur artistique est lui-même, fait lui-même l'adaptation et est souvent lui-même comédien ou comédienne de doublage. Ça peut arriver sur certains projets qu'on doive ou qu'on puisse se diriger soi-même. Et toi, j'ai remarqué que c'est quelque chose que tu faisais pas ou peu. J'ai notamment en tête, d'ailleurs, je cite le film parce que c'est un film que moi j'ai trouvé à mourir de rire et que je conseille à tout le monde de voir. Un film argentin qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages.
Oui.
C'est un film à sketch. Donc en fait, il est divisé en 5 ou 6 sketchs. Donc c'est toi qui a dirigé tous les sketchs, sauf le dernier qui est en plus le meilleur, le sketch du mariage. Donc toi, tu doubles la mariée et
Je vais t'expliquer. Tu as raison.
Non, je voulais citer le titre du film parce que moi j'ai trouvé ça exceptionnel.
Le film est exceptionnel.
Et c'est à mourir de rire et c'est un beau rôle en plus que tu as dans le film.
Alors, je travaillais sur ce film pour une cliente qui s'appelle Laurie Rowe qui m'a confié ce film. Je regarde le film, je trouve que c'est un petit bijou. Et je me dis, waouh, je veux trop faire cette version française, c'est fantastique. Et je lui propose un casting pour la totalité. Et elle me dit, je lui fais des propositions pour la mariée de ce dernier sketch. Et elle me dit, non, mais la mariée du dernier sketch, c'est toi. Je suis sûre que tu peux le faire très bien. Je dis, mais je ne peux pas le faire puisque je dirige. Parce que oui, tu as raison, je me refuse catégoriquement à être au four et au moulin. Je pense qu'on ne peut pas avoir un œil objectif et un regard suffisamment extérieur pour pouvoir s'auto-diriger. Ce n'est pas possible. Enfin, ça n'est que mon avis. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je pense qu'on a besoin de s'extraire de la chose pour pouvoir être, avoir un œil juste sur ce qui est fait. Et donc, elle me dit, mais si, je te jure, c'est toi. J'ai dit, bah oui, mais dans ce cas-là, je ne peux pas le diriger. Et donc, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, tu vas diriger les autres sketchs et on va appeler Marie-Laure Beneston pour qu'elle te dirige sur ce dernier sketch.
Effectivement, voilà. J'avais vu au carton de doublage que c'était fait comme ça, mais c'est tout l'intéressant d'avoir la genèse de comment ça se passe.
Il y a cette question de regard artistique et puis il y a une question d'éthique aussi. C'est que je pense qu'on ne peut pas... Enfin, je veux dire, si on est directeur artistique, c'est un peu voler le travail d'une comédienne qui aurait pu le faire que de faire les deux, quoi,
bien
tu
sûr.
Vois.
À l'inverse, quelqu'un pourrait dire, en fait, Barbara, à la fois en tant que comédienne et en tant que directeur artistique, elle a une telle expérience que elle pourrait se diriger elle-même. Mais toi, c'est aussi un choix de ta part.
D'abord parce que je pense que je ne pourrais pas faire du bon travail et voilà.
T'as besoin d'avoir de pas être des deux côtés.
Ouais. Parce que sinon on va dans ce qu'on sait faire.
Oui.
Alors on sait le faire, mais il faut toujours sortir de cette zone de confort pour se remettre en question et pour faire mieux. Et pour ça, on a besoin de l'œil extérieur. Donc il y a une double raison artistique et éthique.
D'accord. Alors, on parlait de doubler des séries ou d'être casté sur des actrices sur lesquelles on est rappelé régulièrement. Toi, c'est ton cas et c'est vrai que quand on est directeur artistique, c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. Est-ce que à ce moment-là, je ne sais pas s'il faut parler de sacrifice, mais c'est aussi un choix conscient qu'on fait de ne pas donner plus de temps pour se consacrer à d'autres projets, notamment notamment le théâtre, puisque tu parlais du théâtre et toi tu en fais encore.
Oui, j'ai cette chance. Est-ce que c'est un choix qu'on fait consciemment? Je sais pas si.
Ou est-ce que ça peut être une frustration ou...
Ah non, alors j'ai aucune frustration.
Mais tant mieux.
Non. Je m'estime extrêmement chanceuse. Au moment où on accepte la direction artistique, il faut être en revanche, je pense, à ce moment-là, conscient que ça va réclamer un investissement énorme.
Oui,
Il faut le savoir, oui, parce qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Si, c'est pas possible.
Ça rejoint un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du cinéma. C'est-à-dire que si, par exemple, en tant que comédienne, tu peux être castée sur un rôle qui a même, mettons, 20 ou 30 minutes dans un film. Donc, tu viens faire ce qu'on appelle tes boucles, tu fais tes répliques et puis tu repars.
Et puis après, on repart.
Sauf que quand tu es directrice artistique sur un film, tu es là du début à la fin, depuis...
Et puis c'est jour et nuit.
Et puis parfois, il faut le défendre auprès du client qui te dit « Ah, mais pourquoi vous avez fait ça ? Et pourquoi t'as le choix ?»
Effectivement, quand on fait un film, l'enregistrement en lui-même s'étale sur 10 jours maximum, mais il y a eu la période de casting avant, il y a eu les réflexions avec le client. Donc c'est quelque chose qui se fait sur minimum 3 mois, voire des fois plus, parce que le casting peut commencer très en amont.
Bien sûr.
Et c'est quelque chose qui est très prenant. On vit avec en permanence, on réfléchit à tous les rôles, etc. Donc oui, c'est très 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 prenant. Maintenant, j'ai eu de la chance, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais de pouvoir gérer mon temps pour réussir à faire ça et garder du temps pour le théâtre, pour les projets que j'avais envie de mener à bien. Parce que je pense aussi que c'est la diversité des activités qui font que ça se nourrit les uns des autres. C'est-à-dire que si j'avais arrêté le théâtre, j'aurais moins rencontré de gens au théâtre. Or, je vais chercher aussi des comédiens au théâtre pour les amener au doublage. Et que c'est parce que j'ai vécu cette expérience sur scène que je vais pouvoir arriver forte de ça en doublage. Et au doublage, je peux aussi apporter des choses au théâtre. Je pense que toutes ces activités-là sont liées entre elles et c'est que cette diversité en fait la richesse.
Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens. Moi, à chaque fois, je regarde, parce que je suis d'assez près ce qui se fait dans le doublage, à chaque fois, je regarde les affiches des théâtres et je me dis alors quel nom je connais. Et c'est vrai que même si le théâtre, c'est pas uniquement le travail sur la voix, c'est vrai que la voix est capitale puisque contrairement au cinéma où bah, y a des acteurs parfois qui marmonnent et puis finalement, parfois, j'imagine que certains se disent on voit ça en post-prod, quand tu joues au théâtre, en fait, il faut parler à la fois, il faut avoir une élocution qui est à la fois claire et audible, parce que il faut, surtout si tu es dans des théâtres assez grands, il faut que la personne qui est au dernier rang entende, donc c'est pour ça que...
T'as entièrement raison. Le théâtre nécessite une technique vocale que le cinéma, dont le cinéma n'a pas forcément besoin.
Bah, c'est ça. C'est aussi pour ça que parfois, de passer du théâtre au doublage, ça se fait assez, assez naturellement. Je pense notamment à certains comédiens de la troupe de la Comédie Française qui pratiquent aussi du doublage. Donc bien là, j'imagine, que, je ne sais pas si toi tu en as dirigé, mais j'imagine que c'est assez...
Oui, il y a Christian Gonon qui excelle en la matière.
Ouais. Qui double beaucoup Christophe Valls ces derniers temps.
Exactement.
Ouais, donc, j'imagine qu'y compris à diriger, ça doit être assez...
C'est un bonheur. Parce que pour le coup, ce sont des Stradivarius, ces acteurs-là. Ouais. Parce qu'il y a une maîtrise de l'outil vocal et de l'émotion.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qui est fantastique avec ce genre d'acteurs, de comédiens, c'est que la technique est au service de l'émotion. Mais on n'oublie jamais que ce qui prime, c'est la sincérité du sentiment défendu. Et après, quand en plus, il n'y a qu'à appuyer sur des boutons et dire « Attends, ça, on va le faire comme ça
oui, », c'est
des Stradivarius.
C'est la Rolls-Royce. Et alors, donc, on parlait de théâtre. Une des dernières pièces dans laquelle tu avais joué, c'était une mise en scène de La Cagnotte de Eugène Labiche, que moi, j'avais vue, mais pas avec toi, puisque tu ne jouais pas tous les soirs.
Non, j'étais
en alternance avec
Céline Ronté.
Et le soir où j'étais allé au théâtre du Lucernaire, et il s'avère que c'était Céline Ronté. Et donc, tu jouais avec des amis à toi, qui sont des noms également bien connus des amateurs de doublage, puisqu'il y avait de mémoire donc
Xavier Fagnon, Vincent Ropion, Christophe Lemoine.
Que des gens qui ont doublé des Hobbits.
C'est ça.
Christophe Lemoine, voilà, bon, Cartman pour ceux qui connaissent. Vincent Ropion, pareil, beaucoup de doublage. Et donc ça, oui, ça c'est pareil, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que dans le texte et dans la mise en scène, il y a une telle précision, une telle mécanique qu'après, si tu joues sur, y compris dans le doublage, sur d'autres projets comiques, tu es forcément, forcément nourri par
bien sûr, et puis ça apprend la rigueur. C'est-à-dire que sur scène, on ne la refait pas, contrairement au doublage.
Oui, on peut pas dire stop, on reprend au début de la boucle.
Donc, on est obligé d'avoir une concentration, une
rigueur,
précision et une rigueur qui nous apprend beaucoup l'efficacité en doublage.
Et c'est vrai que sur un texte comme celui de Labiche particulièrement, c'est passionnant parce que j'ai... un ami qui lui aussi fait du théâtre et qui est assez fan de tous ces auteurs-là, que ce soit Labiche ou Feydeau. Et il me disait, en fait, le texte, c'est, il est réglé comme du papier à musique. C'est-à-dire que même si dans le E, c'est-à-dire que dans le texte, il y a un E... un acteur qui est pas très bon ou pas très qui a pas trop l'habitude, il va pas le jouer et il va passer à la trappe et c'est pas si grave.
Alors
que le E, il est joué et il a une importance capitale.
Bien sûr.
Et alors, toujours à propos de théâtre, tu prépares un nouveau projet pour 2022.
Oui. Comment tu sais ça?
Parce que je sais tout.
J'en ai pas beaucoup parlé.
Ça a été partagé sur les réseaux un petit peu. Vu que je suis l'actualité du doublage, j'en ai entendu parler.
C'est
et c'est surtout que vu qu'on faisait l'émission, j'ai quand même préparé mes dossiers.
Bravo.
Donc, c'est une pièce qui s'appelle En quoi cette nuit que tu as coécrit avec ton frère Renaud, c'est ça?
Oui.
Donc
tout
pour toi,
fait.
C'est un projet familial et
c'est un projet très intime.
Effectivement,
très très intime, qui nous trotte dans la tête à mon frère et moi depuis très 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 longtemps.
Ton frère, il est dramaturge ou
pas
auteur
du
de...
tout. Pas du tout. Mon frère est chercheur vétérinaire, directeur de l'INSERM de Maison Alfort. Donc, c'est te dire. Mais, il a été enfant comédien et il y a un artiste qui sommeille en lui, ça c'est certain. Et puis, on avait écrit des petites choses comme ça, à droite à gauche, inspirées de l'histoire de notre famille, qui est une famille extrêmement riche, exubérante, enfin, comme beaucoup de familles nombreuses. Voilà, mais chez ma mère, ils sont 5 enfants, avec une histoire particulière, puisque c'était des pieds noirs d'Algérie, donc avec le déracinement qui va avec,
d'accord,
etc. Mais néanmoins, une famille extrêmement joyeuse, extrêmement vivante, et chez qui la résilience est une vraie force.
D'accord.
Et donc voilà pourquoi nous avons décidé d'écrire cette pièce, qui est une histoire de famille, de femme, transmission.
En quoi cette nuit, le titre fait référence à la fête juive de Pessah, c'est ça ?
Tout à fait. En quoi cette nuit se distingue-t-elle des autres nuits est une phrase qu'on dit beaucoup le soir de la Pâque juive. Voilà. Même si, pour être très honnête, ma mère est complètement athée, mon père est de culture catholique mais complètement athée aussi. Nous avons été élevés dans un athéisme profond, mais ma mère a toujours voulu faire les fêtes parce que c'était un prétexte à réunir ses enfants. Donc en fait, le titre de cette pièce est effectivement une référence à la Pâque juive, sauf que ça ne raconte pas du tout ça, c'est le prétexte, c'est la toile de fond, voilà. Ça se passe un soir de Pâques, mais le propos n'est pas du tout là. Le propos, c'est une histoire de femme, de génération et de transmission. C'est une pièce fondamentalement optimiste, que j'espère drôle et poétique.
Musicale aussi ?
Oui, enfin, musicale. Ce ne sera pas une pièce
musicale.
Ce n'est
pas une comédie musicale.
Non, non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, il y aura des musiques originales, oui.
Composées par
Michel Mella.
Voilà, un autre grand nom du doublage. Avec qui tu as beaucoup joué pendant un moment. Il était dans... on parlait des cartoons tout à l'heure. Vous aviez fait Les Animaniacs ensemble. Très chouette série des années 90.
Très, très chouette.
Et tu avais fait de la scène avec lui aussi, il me semble.
Oui, on a fait un spectacle sur des musiques de Michel et des chansons de Michel qui s'appelait Mets la pression, qui était une sorte de numéro de cabaret dans lequel on faisait des numéros de... Ouais, on va dire de chant interprété, parce que je ne m'estime pas chanteuse, mais voilà. Donc effectivement, c'est un projet qui nous tient très à cœur et que nous montrons pour avril 2022. Et pour ne rien vous cacher, en fait, même si pour des raisons évidentes de dramaturgie, nous avons distordu la vérité, mais je jouerai le rôle de ma mère et ma fille jouera mon rôle.
D'accord.
Voilà.
C'est un projet de famille, alors.
Ouais.
Et donc ça, c'est quelque chose que vous commencerez à jouer, alors si tout va bien, puisque là, en ce moment, beaucoup de choses sont mises en question, à partir de...
Du mois d'avril, tout à fait. Mais on est content parce que les premières lectures se sont super bien passées et que le spectacle a été très bien reçu. Donc voilà, on est content.
Fantastique, on a hâte. On a hâte que tu nous en dises plus. Donc en quoi cette nuit, projet qui te tient à cœur.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
On le disait tout à l'heure, toi, tu as commencé le jeu et le doublage particulièrement jeune. Donc, ça fait quand même, sans faire insulte à ton âge, plusieurs
décennies. Ah,
mais
on peut le dire, mais ça fait 30 ans.
30 ans, d'accord, voilà. Que tu es dans ce métier. Et ce qui a aussi... ce qui a changé en 30 ans, en fait, c'est le regard que beaucoup de gens portent sur le doublage. Aussi par le fait des réseaux sociaux, et notamment sur Twitter et sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites autour de ça. J'en parlais tout à l'heure, Féodor Atkin, par exemple, mais beaucoup d'interviews sont faites. Il y a notamment une comédienne qui s'appelle Dorothée Pousseau qui a une émission en ce moment où elle reçoit. Alors il me semble que tu avais participé Donald Renew,
oui,
qui a aussi
fait.
En fait c'est aussi est-ce que ça c'est cette évolution du regard sur le métier et même dans ton cas le regard que peuvent avoir plusieurs générations de spectateurs et de téléspectateurs sur des choses auxquelles tu as pris part, tu vois, moi je te disais tout personnellement c'est Shrek, et c'est quelque chose qu'on ressent en tant que...
Alors, le changement de regard, il est réel et il est bénéfique. Alors après, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que le doublage doit rester un métier de l'ombre parce qu'il faut rester à sa juste place. On est créateur de rien du tout. On essaye d'être dans l'ombre de ce qui a déjà été fait. Néanmoins, le petit coup de projecteur, comme tu dis, qui est donné récemment sur ce métier, permet à certains... de ne plus en avoir honte. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais jeune, quand j'allais passer des castings pour faire autre chose que du doublage, je ne devais pas dire que je faisais du doublage parce que tête des gens, c'était mal vu. Ça voulait dire qu'on était un acteur raté, qu'on était frustré.
Que tu trouvais des cachets nulle part ailleurs.
Exactement. Ouais. Donc c'était un truc qui était vraiment... c'était un art mineur que de faire du doublage. C'était, oh là là, vraiment, c'est nul.
C'est si tu ne trouvais pas de travail au théâtre ou à la...
C'était très mal vu.
C'était un sous-métier.
C'était un sous-métier et c'était un déshonneur que de faire du doublage. Chose que je
n'ai jamais compris.
De le taire. Ouais. Au point qu'on nous disait, il faut le taire. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Et ce qui a commencé à faire changer la donne, c'est avant déjà les réseaux sociaux, quand les clients ont commencé à faire appel à des vedettes,
des acteurs connus, tout à l'heure, exactement, mais il y en a beaucoup
d'autres, pour venir faire des rôles dans le doublage, ce qui n'avait jamais lieu avant. D'un seul coup, on s'est dit, ah, bah attends, s'ils viennent en faire, peut-être que c'est pas si mal que ça. Et d'un seul coup, ça a commencé à redorer le blason d'une, d'une profession qui était effectivement très dénigrée. Et autant je pense que ça doit rester un métier de l'ombre, autant je pense que nous devons être fiers de faire ce métier, qui est un métier mais vraiment tout à fait honorable et qui est un véritable métier de comédien, n'en déplaise à l'image qu'ont certains.
Bien sûr, oui, c'est vrai que de la même façon que on disait une bonne VF, c'est celle qui sait se faire oublier. Et à l'inverse, parfois, tu peux voir des films où la VF, elle est excellente. Moi, très honnêtement, ça m'arrive, je regarde moins les VF qu'à une époque, mais je pense à des VF, une des VF qui est immensément connue, et c'était, il me semble, signée de Jenny Girard, dont on parlait tout à l'heure, c'est celle de Retour vers le futur. Elle est exceptionnelle, la VF. Parce qu'il y a tout, parce qu'il y a le texte, parce qu'il y a des acteurs qui sont pile poil sur les rôles et sur les acteurs qui doublent en VO.
Et honnêtement, et en France, on a un excellent doublage. Hein,
bien sûr, vraiment. C'est vrai que, pareil, un exemple qui est pris, c'est un petit peu tarte à la crème, parce que c'est un exemple qui est pris très souvent, mais si tu prends le doublage d'une série comme Les Simpsons, où on parlait de Doctor House tout à l'heure, si tu écoutes Les Simpsons, et ça arrive largement à la hauteur de la VO, parce que c'est pareil, ils savent partir des expressions idiomatiques, de certaines spécificités culturelles, et les adapter sans les trahir, et c'est vrai que c'est des choses qui sont passionnantes. Et toi qui fais ce métier, comme tu disais, depuis 30 ans, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont le métier... Pas la façon dont on le perçoit, mais la façon dont on le pratique. Est-ce que
Alors, il y a une évolution des techniques, déjà, qui fait que le métier change inévitablement. Moi, quand j'ai commencé le métier, je disais 30 ans, mais j'ai commencé à 11 ans, j'en ai 50. Bientôt, hein,
40 un petit peu, ans.
Voilà. Après, j'avais pas le même regard à 10 ans que maintenant.
Oui. Hein,
je voyais ça avec des yeux d'enfant, mais bon. Mais quand j'ai commencé le métier, on travaillait boucle par boucle, et y avait des records qui changeait à chaque fois les pellicules et les magnétiques, les bandes rythmo là-haut. Donc,
un temps. Si je dis pas de bêtises, quand on parle de bandes rythmo, c'est à l'époque c'était une cassette, maintenant c'est numérique projeté avec le texte écrit dessus. Et à l'époque, le texte écrit était même fait à la main, calligraphié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient connus pour bien écrire, à qui on demandait d'écrire très lisiblement.
Exactement.
Maintenant, c'est le logiciel.
Maintenant, le logiciel le fait. C'est assez récent, le logiciel. Hein.
Oui.
Ça doit faire moins de 10 ans qu'on a un logiciel comme ça. Non, peut-être un peu plus quand même.
À l'échelle.
Voilà,
exactement.
Donc, déjà, il y a eu cette numérisation après. Alors, c'est à la fois fantastique parce que les outils techniques font qu'on peut faire du montage, qu'on peut avoir plusieurs pistes, qu'on peut aller du début du film à la fin du film en un clic, on n'est pas obligé de tout faire défiler comme avant. Donc, évidemment que ça apporte une souplesse. Maintenant, ce qui est différent, c'est que du coup, c'est moins artisanal.
C'est bon et c'est mauvais côté.
Voilà, quand je parle d'artisanat, pour moi, il y a quelque chose de l'huile de coude, de quelque chose qui est fait comme un ébéniste qui va travailler le bois pendant très longtemps. Là, maintenant, c'est différent. Donc, forcément, l'évolution des techniques fait qu'on nous demande d'aller plus vite aussi et que les temps de travail peuvent être parfois réduits. Il y a des gros films sur lesquels on a toujours du temps pour travailler, c'est pas un problème. Mais.
Disney ou Warner,
exactement.
C'est des choses justement auxquelles on
Bien
veut être sûr de donner,
voilà.
D'assurer
voilà.
que ce soit un très bon
exactement.
Produit fini à la fin.
Maintenant, sur les séries,
parce que
faut aller
toi,
vite.
Tu fais aussi des séries, notamment, il me semble, la série Apple TV Foundation, qui date de cette année. Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est-à-dire que avant, quand on...
J'ai eu du temps pour travailler sur Foundation.
Ah oui.
C'était une série prestige,
ouais.
Donc je dois avouer que, alors pas forcément comme au cinéma, pas le même temps que pour des longs métrages, mais néanmoins j'ai eu du temps.
Mais c'est vrai que ce qui est différent, c'est quand les séries sont, ou même certains téléfilms sont diffusés sur des plateformes comme Netflix, Amazon ou Apple, c'est des temps qui sont plus réduits que quand on doublait la série pour des cassettes ou des DVD.
Bien sûr. Puis après, il y a aussi autre chose, c'est que quand j'étais petite, le film il sortait aux États-Unis, puis 6 mois plus tard en France.
Voilà.
Là maintenant, ce sont des sorties internationales.
C'est simultané.
Les séries, quand nous on commence à les doubler, on n'a même pas les images définitives. Mmh. On travaille sur des préliminaires et après on fait des confos, ce qu'on appelle des conformations pour ajuster en fonction des changements. Donc, et tout se fait très 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 rapidement. Oui. Ils sont en post-prod que nous on est déjà en train de faire le doublage, que boum, ça sort une semaine plus tard.
Oui, puisque c'est maintenant, y compris pour contrer le téléchargement illégal,
exactement.
Il y a la diffusion quasiment simultanée ou en tout cas 24 heures plus.
Donc on est en flux tendu en permanence. Donc on ne peut pas ne pas aller vite.
Et sur des... Tu parlais de l'aspect technique, étant donné que c'est des films où il y a beaucoup d'enjeux, y compris financiers, derrière. C'est verrouillé à tous les étages. C'est-à-dire que d'abord, il est diffusé sous un nom de code. Parfois, ce n'est même pas les images définitives qui arrivent.
Nous, on travaille sur des images rotoscopées. Les images rotoscopées... alors, je suis évidemment tenue à une confidentialité pour tout ça, mais les images rotoscopées, je peux te donner le principe de ce que c'est. C'est que nous travaillons sur des images où tout est noirci, sauf le visage du comédien.
Parfois, juste les lèvres. J'avais eu l'occasion d'en parler avec certains comédiens et je pense là, pareil, qu'ils n'avaient rien trahi. Et pareil, les adaptateurs, quand ils travaillent là-dessus, c'est floqué. C'est-à-dire que leur nom apparaît sur la copie.
Ah, donc, moi, quand je qu'ils auraient même
pas.
Maison,
en fait, quand tu as ça, tu n'as même pas l'idée de le faire fuiter parce que tu te
mais malheureusement, ça arrive encore. C'est bien pour ça que c'est terrible parce que moi, ça me dépasse de me dire, mais comment on peut être bête à ce point-là.
Se tirer une balle dans le pied.
Mais exactement. Mais néanmoins, ça arrive encore et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir ces sécurités-là parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes.
Puis, même sur les plateaux de doublage, la sécurité a changé. C'est vrai que maintenant, c'est plus fermé que ça l'a été. C'est-à-dire que peut-être que même certains gros films qui étaient diffusés il y a 20 ans de ça, le studio où c'était enregistré, les portes étaient grandes ouvertes et quelqu'un allait se dire « Ah tiens, j'ai un copain comédien qui double tel rôle, je vais aller dire bonjour maintenant. »
C'est vulgaire.
Les sécurités qui sont déployées, c'est beaucoup plus sérieux que ça maintenant, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, le métier a forcément évolué aussi.
Inévitablement. Ouais, inévitablement. On signe des clauses de confidentialité. Oui. Il faut être très vigilant par rapport à ça parce que rigole pas du tout avec ce genre de choses.
Mais oui, à juste titre.
Oui, tout à fait.
Alors, on arrive malheureusement bientôt à la fin de cette émission, parce qu'une heure, ça passe très vite. Est-ce que, alors c'est la question que je pose traditionnellement à tous mes invités, est-ce qu'il y a une recommandation que tu aimerais faire, c'est-à-dire que ce soit alors on a parlé de beaucoup de films et de séries, mais ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un album, ça peut être un livre, s'il y a quelque chose. En plus, cette saison, c'est encore la saison des cadeaux.
Je viens de terminer. Alors ce sera un livre.
Parler de livres à la radio, c'est bien, ça permet de varier les.
Parce que c'est vraiment un très 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 joli livre qui s'appelle La carte postale d'Anne Berest. Anne Berest, elle est connue aussi comme auteur et dialoguiste de scénar pour la télé. Je voudrais pas dire de bêtises, mais
c'est pas Mytho la série avec Marina Hans. Ok.
Exactement. Mais
j'étais pas sûr parce que il me semble que sa sœur est aussi.
Oui, si. Tu as raison, sa sœur aussi.
Voilà, donc je ne savais plus laquelle des deux c'était son mytho.
Anne Berest a écrit un très très joli bouquin qui s'appelle La carte postale, où sa maman reçoit une carte postale un peu curieuse et elle va chercher d'où vient cette carte postale. Il ne faut pas en dire plus, mais c'est vraiment un très très joli livre sur l'introspection, sur la transmission aussi, et sur la famille.
C'est pas si éloigné.
Non, c'est probablement pour ça que
de ta pièce de théâtre, mais c'est très bien.
Mais je pense que ça peut parler, ça parle à tout le monde forcément, et c'est un très beau livre.
Ben merci beaucoup pour cette recommandation. Pour terminer là-dessus, est-ce que les projets actuels sur lesquels tu travailles, on peut en parler au-delà de tout aspect confidentiel entre que ce soit le doublage ou le théâtre en ce moment, quels sont tes projets?
Les choses que je peux dire, c'est la suite d'une série qui va arriver et que j'ai adoré faire, qui s'appelait The Flight Attendant.
C'était toi à la DA.
Oh, ouais.
Avec l'actrice qui était dans Big Bang Theory.
Exactement. D'accord, ok. Voilà, ça, je pense qu'on peut en parler. Il y a autre chose qui va arriver sur Amazon, qui est tirée d'une saga avec Tom Cruise, mais voilà. J'ai la chance d'avoir de jolis projets, on va dire.
D'accord.
Voilà, pour rester vaste. Il y a la tournée de la Cagnotte, il y a probablement...
Ah, vous êtes en tournée
On est en tournée en ce moment. On va probablement refaire le Festival d'Avignon cette année.
La chance.
Et puis, il y a effectivement ce spectacle En quoi cette nuit qui va...
À partir de mars ou avril?
Avril.
Avril.
3 avril. Voilà, exactement.
Ce sera à Paris dans un premier temps?
Oui, ce sera à Paris dans un premier temps pour 3 représentations exceptionnelles. Et j'espère après, on est en train de chercher un autre lieu pour l'exploiter de façon plus...
Super, ouais. C'est fantastique. Merci beaucoup Barbara pour
Merci
cette
à toi,
interview,
Robin.
C'était passionnant. Merci à tous, j'espère que cette interview vous aura plu autant que moi. C'était la première émission du Quatrième Mur de 2022. Je vous souhaite à tous une très belle année avec plein de bonnes choses, avec toutes les bonnes ondes que Barbara nous a données.
Oui.
Voilà, et très bonne année avec le Quatrième Mur et sur les antennes de Radio Campus Paris.
Oui, très bonne année à tous.